Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui. Un petit peu fatigué après une semaine un peu chargée avec la conférence Sola, puis. Hein? Saturé, hein? Oui. On avait plusieurs événements cette semaine. Et puis, mais par la grâce de Dieu, on veut commencer la semaine du bon pied. Il y en a qui disent que dimanche, c'est la dernière journée de la semaine. C'est pas vrai. Le dimanche, c'est la première journée de la semaine. Et on commence la semaine avec le Seigneur, ensemble, en Église, dans la parole de Dieu. Et c'est notre désir encore une fois ce matin de plonger nos regards dans sa parole. Et je vais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 25. Le psaume 25. Le psaume 25, à partir du premier verset, c'est un psaume de David. « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Ce psaume, on voit dans ce psaume plusieurs sentiments, plusieurs états d'âme qui s'entremêlent dans tout le psaume. On voit que David va faire appel à l'Éternel pour qu'il puisse comprendre la voix de l'Éternel dans les versets 4 et 5. Il veut espérer en l'Éternel, il veut comprendre les voies de l'Éternel parce qu'il veut marcher dans ses voies. Et même plus loin, verset 13, « Celui à qui l'Éternel va montrer la voie » à la fin du verset 12, « L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Et quel est le résultat de ça? « Son âme reposera dans le bonheur. » Et comme on a vu la semaine dernière, lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, lorsqu'on cherche à glorifier Dieu de tout notre cœur dans nos vies, cela mène à un bonheur que Dieu seul peut procurer. Et puis, à travers ce psaume-là, on voit aussi que David réalise son péché, réalise les péchés de sa jeunesse. Il a devant lui ses transgressions, il fait appel à la miséricorde de Dieu. Et comme on a vu dans les premières leçons, une relation intime avec Dieu, ça commence par un Dieu de grâce qui, à cause de son nom, comme le dit le verset 11, à cause de son nom, à cause de sa grâce, pardonne nos iniquités. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de nos bonnes actions, mais vraiment à cause que Dieu désire faire grâce et ça vient d'un cœur rempli d'amour pour ceux qui le craignent et pour ceux qu'il s'est choisi pour être son peuple. Alors ce matin, dans ce psaume, on a cet encouragement à se tourner vers Dieu pour recevoir de son amour, de sa bonté envers nous, de sa grâce, pour être délivré de nos détresses. Et en même temps, il y a cette prière qui s'élève à Dieu. Maintenant, je veux marcher dans tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Ce matin, on est dans la leçon, dans une leçon où j'ai, si vous suivez le plan que je vous ai remis au début, j'ai sauté quelques leçons pour aller directement dans des aspects un peu plus pratiques. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire dans la suite des choses, dans la suite des leçons, comment je vais organiser. Mais cette semaine, selon le plan, je m'attaquais à une très grande question, le problème du mal et comment je me serais attaqué à une grande question, le problème du mal, puis comment ça affecte notre relation avec Dieu, les épreuves et tout ça. Puis j'ai manqué un peu de temps pour vraiment aller puiser là-dedans. Ce n'est pas nécessairement un problème facile à étudier. Et j'ai décidé d'y aller avec, selon la sagesse, d'aller dans la parole de Dieu et quelque chose que ça fait plus longtemps que je peux maîtriser et que je peux enseigner. Donc, j'ai décidé de sauter deux leçons. Et probablement, je vais revenir avec ces leçons-là à la fin du cours. Mais ce matin, on veut se pencher dans cette leçon qui nous parle de la parole de Dieu, comment la parole de Dieu nous aide à grandir dans la sainteté et à glorifier Dieu. Mais juste avant, on a besoin du Seigneur, on a besoin de sa grâce. On va se courber devant lui. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur parce que à cause de ton nom, à cause que tu es l'Éternel, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous fait grâce, Seigneur, tu as pardonné nos péchés, tu as pardonné nos iniquités. Et maintenant, on a ce privilège de pouvoir être en relation avec toi, de pouvoir jouir du vrai bonheur parce qu'on te connaît maintenant. On peut te connaître, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ et on a ce privilège maintenant d'être en relation intime avec toi. Seigneur, de jour en jour, on vit des épreuves, des difficultés qui parfois affectent nos cœurs, les sentiments qu'on éprouve pour toi. Mais ce matin, on veut se placer devant toi, Seigneur, avec ce désir de vouloir t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, on veut que tu puisses, par ton esprit qui vit en nous, qui est vivant, qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et demander et penser, que tu puisses réveiller nos cœurs afin que nos cœurs soient brûlants d'une passion et d'un amour pour toi. Et Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous montres la voie pour qu'on puisse trouver ce vrai bonheur en toi. Aide-nous, Seigneur, à faire silence en nos cœurs et que nous puissions avoir l'esprit éveillé ce matin pour se concentrer et travailler, Seigneur, à être de plus en plus fidèles, des gens de plus en plus fidèles à toi, à prendre du temps avec toi et à vivre cette intimité avec toi. Bénis-nous ensemble ce matin et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, si je fais juste un petit rappel, on est dans le cours des affections spirituelles. Et on a vu dans un sens ensemble qu'il y a plusieurs types de spiritualité dans le monde et dans l'histoire. Il y a eu toutes sortes de... Chaque religion, chaque philosophie développe sa spiritualité, en quelque sorte. C'est principalement ceux qui croient dans l'existence de Dieu ou d'une force ou d'un quoi que ce soit. Les gens veulent entrer en contact avec ce Dieu qui est là, selon plusieurs, selon leur façon de concevoir les choses. On a découvert ensemble que c'est pas en nous-mêmes ou c'est pas en réfléchissant seul qu'on arrive à connaître Dieu réellement, ce Dieu qui est un, qui est seul, qui est le seul vrai Dieu, mais c'est parce que Dieu lui-même s'est révélé dans sa parole et ultimement en Jésus-Christ. Et Dieu nous a révélé qui il était, sa sainteté, sa majesté, pour qu'on puisse voir quel est notre état devant lui, un état de pécheur perdu sans lui. Et on a besoin de se tourner vers lui pour recevoir la grâce qu'il nous a fait en Jésus-Christ, pour saisir cette grâce parfaite pour qu'on puisse entrer dans cette relation intime avec lui, être entièrement pardonné et réconcilié avec lui. Et par la suite, la semaine dernière, on a vu comment c'était possible de glorifier Dieu et de trouver notre bonheur dans cette vie. Déjà maintenant, on peut avoir un bonheur qui dure et un bonheur qui dure éternellement. Je raconte parfois cette histoire-là où j'étais dans l'avion à un moment donné, j'allais au séminaire, je revenais du séminaire et puis j'avais un homme assis à côté de moi puis il dit, c'était un Québécois, on était de Chicago, un vol de Chicago à Montréal, mais j'avais un Québécois qui est assis à côté de moi. On commence à discuter, on se rend compte qu'on étudie à la même université, tout ça. Et puis, je lui explique qu'est-ce que j'étais. Il me demandait qu'est-ce que j'étais allé faire aux États-Unis. Fait que je lui explique que j'étais allé faire un cours pour ma maîtrise en théologie. Puis lui, il s'arrête. Juste quelques instants, je le sens, il est en train de réfléchir. Puis tout d'un coup, comme ça, il dit, « Moi, je suis un homme heureux, moi. » Ça a trotté vite dans sa tête, hein? Et le Seigneur, par son esprit, m'a mis cette pensée tout de suite dans mon cœur, puis ça a été une réponse directe. Vous dites, vous êtes heureux. Croyez-vous que ce bonheur va durer éternellement? Et puis, la porte ouverte pour l'Évangile. Et puis, j'ai pu partager l'Évangile à cet homme-là pendant 2 heures de temps dans le vol. Il était intéressé, il était ouvert. Puis, bonne discussion. Et puis, mais c'était cette question-là. On veut trouver le bonheur, mais est-ce qu'on veut trouver un bonheur qui dure éternellement? Et ce bonheur qui dure éternellement se trouve en Dieu. Et Georges Müller a constaté quelque chose dans sa vie. Et je vous ai mis ces paroles qui sont là au début des notes. Pour ceux qui n'ont pas eu les notes, sont sur la table à l'arrière, vous pouvez aller en prendre une copie. Il a dit, « J'ai constaté plus clairement que jamais que la plus grande et la plus prioritaire des tâches à laquelle je devais m'affairer chaque jour était que mon âme soit heureuse dans le Seigneur. La chose la plus importante qui devait me préoccuper n'était pas la mesure de mon service pour le Seigneur ou la mesure de mes efforts pour glorifier Dieu, mais plutôt comment je pouvais faire en sorte que mon âme soit dans la joie et comment mon homme intérieur pouvait être nourri. J'ai constaté que la chose la plus importante que je pouvais faire était de m'adonner à la lecture de la parole de Dieu et de la méditer. Pour pouvoir avoir le bonheur en Dieu, j'avais besoin de lire et méditer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que comme chrétien et évangélique, on accorde beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est celle qui nous conduit vers Dieu pour qu'on puisse avoir le vrai bonheur. Alors, si je veux poursuivre de toutes mes forces mon bonheur et ma joie dans cette vie, maintenant je sais par la grâce de Dieu que c'est en Dieu que je vais le trouver. Mais j'ai besoin de courir vers sa parole pour me nourrir spirituellement. La parole de Dieu est ma nourriture et j'ai besoin d'aller vers la parole de Dieu pour recevoir cette joie, ce bonheur. Pourquoi on doit lire la Bible? On a toutes sortes de raisons, des bonnes raisons. Mais pour réellement être heureux, on doit rechercher la gloire de Dieu. On l'a vu la semaine dernière, rechercher la gloire de Dieu en poursuivant la sainteté. La sainteté à l'image de Jésus-Christ, grandir à l'image de Christ. Et sans la parole de Dieu, c'est impossible. La sainteté que le Seigneur exige ne vient pas sans que notre âme se nourrisse au torrent de la parole de Dieu. Et ça vient de moi. Là. Hey, j'ai trouvé que j'étais hot en écrivant ça. Hein? Ouais, Alexandre, hein? Il soulignait ça. Là. Inspiré. Non, non. Peut-être de l'Esprit de Dieu à travers tout ça. Mais ça vient pas. Ma sainteté, si je poursuis la sainteté, c'est nécessaire que j'aille me nourrir. Que j'aille m'abreuver, si j'aurais pu mieux dire, m'abreuver au torrent de la parole de Dieu. La révélation de Dieu dans les Écritures est la substance qui nourrit notre âme et qui nous sanctifie. Comme Jésus l'a dit, on l'a lu et qu'on peut lire dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Comment je vais grandir dans la sainteté? Comment je vais grandir à l'image de Jésus-Christ dans ma vie? C'est par la parole de Dieu. C'est la parole qui nous sanctifie. Et la parole est l'outil par excellence que le Seigneur nous a laissé pour qu'on puisse grandir dans la sainteté. Et puis, on a tendance souvent à voir la parole de Dieu comme celle qui nourrit notre âme à nous personnellement, mais pas seul pour qu'on puisse grandir dans la sainteté, mais le but de Dieu, c'est qu'on grandisse ensemble dans la sainteté. Et donc, on a besoin de se nourrir personnellement, mais aussi comme Église, de se nourrir et de s'influencer à glorifier Dieu pour atteindre une sainteté et qu'ensemble, on puisse vivre à la gloire de Dieu. Et on voit ça souvent, on voit les épîtres de Paul sont adressées, la plupart, des fois à des individus, mais la plupart à des églises. Et lorsque les Écritures nous parlent, ils parlent au peuple de Dieu, ils nous parlent individuellement, mais aussi au peuple de Dieu, pour qu'ensemble, on puisse s'encourager, s'exhorter à vivre dans la sainteté. Et donc, on a besoin de la parole de Dieu individuellement pour grandir, mais aussi devenir des modèles pour nos frères et sœurs, dans la croissance, dans la sainteté. Et donc, la parole de Dieu, si je veux grandir dans la sainteté, j'ai besoin de la parole parce que c'est elle qui m'enseigne, qui me convainc, qui me corrige et qui m'instruit dans la justice. Dans 2 Timothée 3,16, on connaît bien ce verset-là, mais je veux quand même prendre le temps de le lire parce que c'est un verset clé sur l'œuvre que la parole de Dieu fait dans nos vies. 2 Timothée 3,16, et c'est facile à retenir cette référence-là, hein? Jean 3,16, 2 Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si je veux devenir un homme accompli, ça veut dire un homme mature, un homme modèle ou une femme modèle. Si je veux être l'image de Christ pour mes frères et sœurs et pour le monde autour de moi, j'ai besoin de la parole de Dieu qui vient m'enseigner, me convaincre, me corriger et m'instruire. Et on va voir ces 4 termes-là. Et puis, on va les comparer un peu au psaume 1. J'avais déjà entendu un pasteur faire la comparaison entre 2 Timothée 3,16, l'œuvre de la parole de Dieu, puis l'homme qui est sur le chemin, qui marche, et comment la parole de Dieu vient influencer cet homme-là qui est sur le chemin de la vie. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et donc, la parole de Dieu est là pour m'enseigner et me dire qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce qui est bien pour que je ne puisse pas marcher selon le conseil des méchants. Mais parfois, il peut arriver qu'on puisse non seulement juste être en compagnie, mais de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et là, il y a comme une action de plus, qui est comme, je marche avec eux, mais là, à un moment donné, je trouve ça intéressant, puis je m'attarde un peu plus à ce que toi, tu me dis, puis ça, je trouve ça intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin que la parole de Dieu vienne me convaincre. Hey, arrête-toi pas à ça! J'ai besoin que la parole de Dieu vienne convaincre mon intelligence que ça, ça n'a pas d'allure. Et là, même, des fois, on peut aller un peu plus loin et on peut s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et là, on est rendu à un point où non seulement on marchait, on s'est arrêté, on s'est assis, puis là, j'ai du plaisir avec ceux qui font le mal. Et j'ai besoin de la parole de Dieu qui vient pour me corriger. pour me dire, « Hey, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de marcher. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu as besoin d'être redressé. » Et c'est ça l'idée de corriger. C'est de redresser ce qui n'est pas droit. On voit dans, aussi ce terme-là utilisé dans Éphésiens 6, quand Paul parle aux pères qui doivent instruire leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant. Et donc, c'est d'éduquer et de vraiment corriger ce qui est le cœur qui n'est pas droit. Et finalement, une fois que le Saint-Esprit fait son œuvre en nous et qu'on est convaincu, on a été corrigé, j'ai besoin maintenant d'avoir de l'instruction pour persévérer dans ma marche avec Dieu. Et la parole de Dieu a cette... Je trouvais ça intéressant, c'est pas... Je pense, c'est peut-être que le Saint-Esprit a inspiré ça de cette façon-là, mais je trouvais ça intéressant, l'image que de comparer le psaume 1 et le 2 Timothée 3, 16. Mais il y a cette idée que la parole de Dieu est là pour m'enseigner, pour me dire, voici ce qui est bien, pour me convaincre quand mon intelligence est réticente à croire ce que la parole de Dieu dit. J'ai besoin d'être convaincu. Puis quand je marche ou que je m'arrête et que je m'assois, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'être instruit davantage pour comprendre la parole de Dieu. Et donc, dans la vie chrétienne, on a besoin de la parole de Dieu parce que pour grandir dans la sainteté, parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous enseigne, qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Mais pour diverses raisons, des fois, on a des moments dans notre vie où notre âme s'endurcit envers Dieu. Et vous pouvez me nommer multiples situations, je suis certain, de moments où dans votre vie, vous avez ressenti ça. C'est-à-dire, mon cœur est insensible maintenant à la parole de Dieu. Dieu vous a amené dans des endroits que ce n'était pas le plan que vous aviez prévu pour votre vie. Vous aviez, j'aimais l'image, on a souvent tendance à voir notre objectif, d'atteindre notre objectif avec une ligne directe. Mais parfois, Dieu nous fait faire des détours. Et puis, on n'apprécie pas nécessairement les détours que Dieu nous fait faire. Il nous amène dans des épreuves pour nous enseigner. Il veut nous amener. Il veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Mais nous, on pense que ça va arriver. Hey, let's go, on court, on y va. Sans que tout va bien aller. La vie va bien aller. Il n'y aura pas de problème. Hey, je mets mes efforts à glorifier Dieu. Pourquoi Dieu me ferait souffrir? Dieu devrait me bénir plutôt. Et parfois, Dieu nous fait faire des détours. Nous amène dans des moments d'épreuve, de difficulté, de souffrance. Et là, on se dit, pourquoi, Seigneur? Et puis, même, on devient insensible même à la parole de Dieu. On n'a même plus le goût de lire la parole de Dieu. Et j'ai déjà adressé ce point-là dans une prédication récemment, mais lorsque j'arrive dans ces moments-là où je deviens insensible à la parole de Dieu, j'ai besoin... pour corriger ça, d'aller à la parole de Dieu. Si je désire glorifier Dieu puis grandir dans la sainteté, j'ai besoin de retourner à la parole de Dieu. Et c'est elle qui peut percer le cœur endurci. Dans Hébreux 4, au verset 12, ça nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir ce cœur endurci et de dire, « Seigneur, ouf, ça ne me tente pas trop un matin. Là. Ça ne me tente pas trop d'ouvrir ma Bible et de commencer à lire. Mais par ta grâce, tu m'as comme ouvert les yeux, tu m'as dit que c'était ça que j'avais besoin. » Fait que je vais y aller, puis je vais aller la lire. Et puis, on prend ce temps avec Dieu et tout change. Notre perspective change. Dieu nous enseigne. Dieu nous convainc de l'état de notre cœur. Dieu nous corrige l'état de notre cœur. Il nous instruit, puis il nous ramène dans la vérité parce que sa parole pénètre le cœur le plus endurci. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Si vous êtes à l'aise. Un exemple de moment où vous avez vécu ça, peut-être une froideur par rapport à la parole de Dieu, et puis que Dieu a fait, que vous vous souvenez, là, un moment marquant où Dieu, vous vous souvenez que Dieu a fait une œuvre à travers sa parole. Juste, si vous êtes à l'aise, quelqu'un pourrait peut-être partager ça. Oui, Camille. Oui. Oui, OK. C'est bon. Donc, on va voir ça même plus loin dans les aspects plus pratiques, ce que tu mentionnes, mais juste pour ceux qui ont peut-être moins entendu, Camille disait qu'elle lisait Job et puis elle trouvait ce livre-là ennuyeux. Mais elle a essayé de regarder et de lire Job avec la perspective de l'Évangile, avec la perspective que ses souffrances et tout ça, finalement, ont leur délivrance en Jésus-Christ, en quelque sorte. Et puis, ça ouvre les yeux sur la richesse de ce livre-là. Et donc, c'est plus un livre ennuyeux, mais c'est un livre qui a pris vie, en quelque sorte, et puis pour Camille. Je me souviens, c'était tout récemment, le psaume que je vous ai lu tout à l'heure, le psaume 25. J'étais à un moment où très contrarié dans ce que je pouvais vivre, et puis souvent, quand on est contrarié, puis ça ne fait pas notre affaire, comme je disais tout à l'heure, en tout cas pour moi, c'est... l'insatisfaction qui s'installe dans mon cœur. Et puis, j'ai lu le psaume 25. Et puis, le verset 7 disait, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. » Plus loin, il va parler de, justement de son péché qui est devant Dieu. « Vois ma misère et ma peine et pardonne mes péchés », verset 18. Et puis, ça a été un rafraîchissement pour ce moment-là où j'étais contrarié. « Bon, Seigneur, tu m'amènes là. » Puis ma conclusion, c'était « J'ai péché parce que je suis en colère, je suis insatisfait. » Mais toi, tu es en train de me montrer là, que tu prends soin de moi dans ta bonté. Puis mon péché qui était devant toi, tu le pardonnes. L'Évangile, encore une fois, la parole de Dieu nous ravive, nous rend capables de passer à travers ces moments où on a nos cœurs un peu plus endurcis. Sans l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies, on est voué à être les plus malheureux des hommes et des femmes, parce que par sa parole, Dieu ranime notre âme pour qu'on puisse trouver le bonheur en lui. Don Whitney, qui est un des professeurs au séminaire où j'ai étudié, dit « Qu'importe combien nous pouvons devenir occupés avec tous les aspects de la vie chrétienne, nous devons nous rappeler que la pratique la plus transformatrice qui nous est disponible est la discipline de se nourrir de l'Écriture. » On peut être occupé à bien des affaires, des ministères, le service, s'aimer les uns les autres, servir les gens autour de nous, partager l'Évangile. On peut remplir un horaire, là, les besoins sont innombrables. Si je regarde la terre à gagner pour l'Évangile, j'ai de l'ouvrage. Un jour, le Seigneur va revenir, mais moi, tout seul, je ne serai jamais capable d'accomplir ça, puis on n'aura jamais fini. Il va toujours avoir des besoins. Puis on peut remplir nos horaires, notre temps, avec des bonnes choses. Mais si on néglige la parole de Dieu, on néglige d'être enseigné, d'être nourri, puis de pouvoir être revigoré spirituellement pour accomplir ça, ces bonnes choses-là. Et puis, j'ai connu des pasteurs, et je le vois moi-même dans ma vie, où que lorsqu'on est trop occupé et qu'on ne prend pas le temps, on devient épuisé. J'ai perdu mes forces. J'ai besoin de mes forces. Où je vais trouver mes forces? Dans la parole de Dieu qui me nourrit et qui me donne les forces. C'est comme si j'avais cette image en moi J'étais comme les gens qui vivent, des gens qui vivent dans le tiers-monde et qui n'ont pas de nourriture. On a déjà vu des photos de ça, hein, à la télévision. Les gens qui... c'est malheureux, on voit le squelette. Et puis j'avais cette image-là en moi. Quand je ne me nourris pas spirituellement, je suis un affamé. Puis, es-tu capable de travailler? Y a-tu les forces pour avancer? Cette personne-là n'a pas les forces pour avancer. Pourquoi? Elle a besoin de nourriture. Elle a besoin de nourriture physique pour travailler. Mais moi, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour grandir dans la sainteté, j'ai besoin d'être nourri et d'être en forme spirituellement. Puis c'est dans la parole de Dieu que je vais me nourrir. Donc, on a besoin que cette discipline de la parole de Dieu, cette discipline qui est tellement bénissante, parfois on va dire discipline, là on a peur, là. Oh, et tu me mets une montagne en avant de moi, la discipline, moi, non. C'est pas mon affaire, là. C'est pas, je suis vraiment pas discipliné, moi. Mais il y a de la joie dans la discipline. Puis des fois, on voit ça comme une montagne, on voit ça comme malheureux de dire, je dois me discipliner à lire la parole. Non, parce que la parole nous rend la vie, la parole nous nourrit. Il y a un bonheur à lire la parole de Dieu. Donc, voici les raisons pourquoi on doit lire la parole. Maintenant, comment on va se nourrir de la parole de Dieu? Il y a plusieurs façons de faire. J'aimerais en mentionner quatre pour grandir dans notre affection pour la parole. Premièrement, on doit écouter la parole de Dieu. Mais il y a un aspect important lorsqu'on approche l'écoute de la parole de Dieu ou la lecture ou toutes ces étapes-là que je vais nommer. Ce qui est important, c'est de se préparer à écouter. Si ma femme me dit, « Hey Alexandre, j'ai de quoi d'important à te dire. » Oups, il y a comme il y a une alarme qui vient de sonner, là. Je dis, « OK, bon, on va s'asseoir, on va jaser, on va se préparer pour écouter ce que tu as à me dire. » C'est pas comme une instruction. « Hey, va donc chercher le sac de Nathan en bas parce qu'il part pour l'école. » C'est pas comme ça, là. Quand ma femme me dit, « J'aimerais ça, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Je me prépare, là. Je dis, « OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle va me dire? » ça arrive des fois, hein? Mais même des fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un temps à part, et on va faire garder les enfants, on va sortir, on va aller au restaurant, puis on va prendre le temps de jaser. On se prépare à écouter les choses importantes que notre épouse a à nous dire ou que notre époux a à nous dire. La même chose avec la parole de Dieu. On doit se préparer à écouter. Jeremiah Burrow, si je le dis bien. Un puritain anglais, je vous ai déjà parlé des puritains qui étaient des gens très pieux au 17e siècle, a dit, premièrement, quand vous venez écouter la parole, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur, vous devez préparer vos âmes avec ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est la parole de Dieu. Le Dieu saint, devant qui Ésaïe s'est caché la face parce que il veut me parler, parce qu'il voyait son péché. Ce Dieu-là veut me parler. Comment je me prépare à ça? En d'autres mots, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne doit pas être des auditeurs passifs. On n'est pas là en train de dire, « OK, je l'écoute, là, mais je pense à plein d'autres choses en même temps. » Je m'assois, j'écoute ce qu'il y a à me dire, puis il y a des questions qui viennent dans mon esprit alors qu'il est en train de parler, puis j'essaie de répondre, « OK, c'est ça qu'il veut dire, puis j'essaie de comprendre. » Il y a une écoute active, c'est ça, hein? C'est, l'écoute active, je ne suis pas très instruit dans la communication, malheureusement, mais on parle de ça, l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? C'est qu'on interagit avec la personne, on écoute, mais « OK, ben, tu viens de dire ça, je veux comprendre ce que tu es en train de me dire là. » Ma femme me dit, Alexandre, je vois en toi telle chose. OK, mais comment tu as vu ça? J'ai vu ça quand tu as fait ça, puis ça fait quelques fois que je te vois faire. OK, là j'ai fait cette action-là. Qu'est-ce qui était dans mon cœur à ce moment-là? Puis je réfléchis. Il y a une écoute active. La même chose avec la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire avec la parole de Dieu. Et il y a un hymne qui a été traduit en français. Par la grâce de Dieu, on aime. On aimerait l'introduire éventuellement comme un chant. C'est un beau chant juste avant la prédication de la parole. C'est Keith et Christine Getty qui ont écrit ce chant-là. J'ai les paroles en français pour vous. Peut-être que vous pouvez mettre ça, prenez ces paroles-là, mettez ça sur un petit signet dans votre Bible où vous êtes rendu. Un petit signet, vous imprimez ça sur un signet où vous êtes rendu, puis vous lisez ça avant de lire la parole. Parle-nous. Nous venons à toi. Recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous. Accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. C'est une belle prière. Juste avant de lire, ou avant la prédication, ou avant de lire la parole, ou avant d'entendre un message, parle-moi, Seigneur. Je suis venu à toi, là, puis je suis prêt à t'écouter. Alors, se préparer pour écouter, ça, c'est une des choses. Lorsqu'on vient pour écouter la parole, on doit se préparer. On a plusieurs façons de pouvoir écouter la parole de Dieu. Premièrement, on écoute la parole de Dieu par la prédication. J'ai déjà mentionné récemment, dans l'Église, les études bibliques, la parole de Dieu est prêchée et on vient se nourrir. Chaque dimanche, lorsque la parole de Dieu est exposée, puis entre autres lorsque la parole de Dieu est exposée. Cette semaine, on a entendu un expositeur extraordinaire de la parole avec Tim Savage. Il a ouvert Éphésiens 4, verset par verset, nous expliquait chacun des mots. Là, la parole de Dieu, comme, oh wow, ça rouvre mon... Ça m'aide à comprendre ce passage-là. Et lorsque... c'est ce qu'on met dans le fond, dans l'Église, on essaie de mettre l'accent là-dessus. Vous le voyez, j'ai passé à travers Galates cet été, Yannick a passé à travers le livre des Actes, et on l'a fait depuis plusieurs années. On ouvre le passage et on essaie de l'expliquer. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit. C'est pas moi, c'est pas ce que j'amène. Peut-être que le Seigneur met des choses dans mon esprit qui peut aider à comprendre ça, mais c'est pas moi, c'est ça qui est important. Et lorsqu'on vient à l'Église, dans les prédications ou à travers les études bibliques, dans les petits groupes, on vient pour écouter la parole de Dieu. C'est une manière de se nourrir de la parole de Dieu. Vous connaissez aussi la Bible en CD, en MP3 maintenant, ça a été en cassette. Des fois, on a manque de temps un peu. Part un peu plus rapidement de la maison. Je n'ai pas eu le temps de me nourrir de la parole. Je mets le CD dans mon auto, ou même maintenant, là, tu as des podcasts, t'as toutes sortes d'affaires, on a tout ce qu'il faut. Tu as un ordinateur qui, avec toi, quasiment, ceux qui ont ces outils-là. Tu mets la Bible là-dessus, puis tu plugues ça dans l'auto, puis tu écoutes un chapitre. Puis des fois, on était distrait un peu. Moi, j'avais pris l'habitude, quand ça m'arrivait, bien, je le fais rouler une couple de fois. Ah, c'est vrai, je n'avais pas entendu ça la dernière fois. Là, je viens avec des idées. Mais donc, écoutez la parole. Mais écouter la parole, il y a un aspect important aussi, ça implique de la mettre en pratique. Écouter dans les Écritures implique l'obéissance. Dans Matthieu 7, les versets 24 à 27, c'est un passage que vous connaissez bien, mais je vais aller le lire quand même. C'est Jésus qui parle de la parabole, c'est la parabole des deux maisons. Il va dire... Matthieu 7, versets 24 à 27, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, il entend, mais il fait quelque chose avec. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit, il obéit. Et dans les Écritures, quelqu'un qui écoute et qui ne met pas en pratique, ça ne vaut rien. Jacques nous le dit. Comme un homme emporté par le vent, ça va nulle part. Seigneur Jésus nous dit que si tu les entends et tu les mets en pratique, tu es semblable à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. Et quand la tempête vient, la maison reste solide. Et ça, là, cette image-là, là, je me rappelle toujours de la petite maison au Saguenay, pendant le déluge du Saguenay en 96, je pense. Souvenez de cette petite maison-là. Là. Les torrents sont venus, puis la maison est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Ça, c'était la plus belle image de ce passage-là. On l'a vu, hein? les barrages qui débordent, puis les torrents qui arrivent. La maison est là sur un rocher, puis elle est restée debout. Bon, un peu en dedans, ça a été... La tempête, des fois, vient nous brasser un petit peu pareil. Mais le Seigneur, il dit, elle va rester debout. Alors, pas simplement l'écouter, mais aussi la retenir dans nos cœurs pour qu'on puisse lui obéir. Ça, c'est premièrement écouter la parole de Dieu. Ça, lorsqu'on n'a pas le temps de lire, c'est important de prendre ce temps-là, pour prendre du temps pour écouter la parole. Maintenant, on peut la lire aussi. Puis c'est, plus j'avance là, dans ces points-là, là, plus on creuse. Et puis ça, je trouve ça intéressant. On va voir plusieurs autres, qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu. Mais lire la parole. À quelle fréquence on doit lire la Bible? OK, regardez pas les notes ici, là. OK? Je pose la question. Dans les Écritures, est-ce qu'il y a un verset qui nous dit à quelle fréquence on doit lire la Bible? Oui, Sam. Oui. OK.
Alors, le pain quotidien, de ce que Jésus fait mention, c'est la parole de Dieu.
OK. Oui, OK. Le pain quotidien, je pense, ça fait référence à mes besoins, que j'ai besoin des choses aujourd'hui. C'est mon pain, mais en même temps, mon pain, c'est pas juste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Seigneur, pourvois mes besoins. Puis, tu sais, je pense que on peut faire un parallèle. Oui, j'ai besoin de la parole de Dieu au quotidien, OK? Mais est-ce que je pense que c'est une bonne réflexion, OK? Mais est-ce que c'est un impératif? Non, OK. Esther, vas-y. OK. 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 Oui. Non, OK. Oui. Le roi, oui. OK, le roi. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y avait un commandement pour le roi d'être versé dans les Écritures, de lire régulièrement, tu dis chaque jour. Je me souviens pas du passage, mais c'est correct, je te crois, là. OK? C'est bon. Oui, Caroline? OK. Oui. OK. OK. Oui. Plusieurs fois par jour, on voit ce principe de sagesse-là. Sandra, tu avais quelque chose? Monsieur Prévost, juste à Sandra en arrière, puis après ça, vous, excusez-moi. Vas-y, Sandra. Oui. Jour et nuit. OK. Donc, il donne instruction à Josué de la méditer jour et nuit, OK, pour agir selon ce qui est écrit. Monsieur Prévost? Oui, les Écritures. Oui, chaque jour. OK, je pense que on voit pas d'impératif que Dieu nous dit, « Hey, mon bonhomme, lis ta Bible chaque jour. » Ça, on voit pas ça. Mais beaucoup de principes de sagesse, et même dans les psaumes qu'on le voit, et même, il va le dire, donner le commandement à Josué, de la méditer régulièrement, jour et nuit. Oui. OK. OK, oui. Tous les jours de sa vie. Oui, c'est ça. Donc, celui qui avait accès à la parole écrite devait la lire tous les jours. Mais je trouve qu'il y a une réflexion encore intéressante aussi que je vous ai mis dans les notes, puis on va la lire. C'est John Blanchard qui est un un écrivain ou un pasteur britannique qui a dit « Certainement, nous devons être réalistes et honnêtes avec nous-mêmes pour connaître la fréquence à laquelle nous devons nous tourner vers la Bible. » À quelle fréquence avons-nous à faire face à des problèmes, à la tentation et à la pression de la vie? Chaque jour. Chaque jour, je rencontre des problèmes. Je rencontre des difficultés où j'ai besoin de sagesse. Alors, à quelle fréquence avons-nous besoin d'instruction, de direction et d'encouragement? Chaque jour. Pour comprendre tous nos besoins jusqu'à nos plus grands problèmes, à quelle fréquence avons-nous besoin de chercher la face de Dieu, entendre sa voix, sentir sa présence et saisir sa puissance? La réponse à toutes ces questions est la même chaque jour. Et je pense qu'il y a une grande sagesse de se tourner vers la parole de Dieu chaque jour. Maintenant, je retiens le commentaire d'Esther, qui est intéressant aussi parce que c'est un exemple dans les Écritures. La parole de Dieu, si je l'ai dans mon cœur et que je la médite, je ne me suis pas assis nécessairement le matin pour la lire et tout ça, ce qui est très bien. Mais si je l'ai dans mon cœur et que je médite sur cette parole-là, elle me nourrit cette parole-là aussi lorsque je m'en souviens. Et donc, on doit se tourner vers la parole de Dieu. Et donc, on va aller vers des conseils pratiques. Lorsque vient le temps de lire la parole de Dieu, premièrement, on a des fois, on veut avoir des plans, on se donne des plans, puis tout ça. OK, attends un peu. Trouve-toi un temps pour commencer. Quand est-ce que tu vas faire ça dans ta journée? Si tu veux instaurer une certaine discipline, on mange 3 repas par jour, toujours à peu près à la même heure du lundi au vendredi. Donc, vers 7h, 7h30 chez nous, avant d'aller porter les enfants à l'école puis de venir au bureau, c'est l'heure du déjeuner à 7h. C'est à quelle heure ton déjeuner spirituel? Hein? Ça commence là. Et quelle heure ton déjeuner spirituel? Pour moi, c'est vers 6h, une heure avant que les enfants se lèvent, je m'assois, et je prends le temps de lire la parole de Dieu puis prendre un temps avec le Seigneur. Donc, tu le planifies. Maintenant, on peut choisir un plan aussi qui convient à notre capacité de lecture et le temps qu'on veut y consacrer. Donc, si moi je dis à peu près 45 minutes, une heure, c'est mon temps. Là-dedans, je prie aussi, là, c'est pas juste la lecture de la parole. Donc, il faut que je me donne un plan. Si je dis j'ai 10 minutes ou 15 minutes le matin, je suis vraiment pressé, je pars de bonne heure, puis j'ai 15 minutes. Bien, donne-toi pas un plan où tu vas lire la Bible 3 fois dans l'année. Tu n'auras pas le temps de la lire. Fait qu'il faut que tu prennes le temps, un plan qui est réaliste. Donc, d'avoir un plan et de s'y consacrer. Et j'ai marqué un commentaire ici, c'est mieux de lire 5 minutes par jour qu'une heure, que juste une heure à un moment dans la semaine. C'est mieux de me nourrir chaque jour. Comme je fais normalement pour me nourrir. Je ne prends pas un gros buffet le dimanche matin puis je t'offre le reste de la semaine avec. J'ai besoin de manger régulièrement. La même chose avec la parole de Dieu. Donc, pour s'aider, on peut identifier un mot, une phrase, un verset à méditer. Si parfois, des fois, on veut passer à travers des plans de la Bible en un an, on a 3, 4, 5 chapitres à lire par jour, c'est bon de prendre le temps de juste retirer le passage qui nous a touchés puis d'y réfléchir, de le méditer. On va voir un petit peu plus loin. Si ce n'est pas cette semaine, on continuera la semaine prochaine. Mais l'importance de méditer la parole de Dieu. Donc, ensuite de ça, si j'ai trouvé du temps pour lire la parole, c'est excellent. Maintenant, je peux aller un peu plus loin. Je peux étudier la parole de Dieu. Et étudier la parole, lire la parole de Dieu, puis l'étudier, ça peut se comparer à comme si je voyage en bateau sur l'eau. Quand je lis la parole de Dieu, je suis avec mon bateau à moteur, là, puis je crains que ça au fond, puis là, je vois toute la mer, puis c'est beau. Mais quand je vais étudier la parole de Dieu, j'ai un souvenir de ça, c'est que je peux aller voir les trésors qui sont au fond. Une fois, j'étais en voyage dans le sud, j'ai pris un bateau comme ça, aller un peu plus loin, puis là, tu arrives à un certain endroit, le gars, il arrête ça là, tu mets ton masque, ton tuba, puis tu t'en vas voir qu'est-ce qu'il y a. Et puis, il nous avait choisi un beau spot, comme on dit. Les beaux poissons, comme je n'avais jamais vu. J'avais juste envie de rester là, puis d'admirer ça. Mais l'étude de la parole, c'est un peu comme ça. C'est que je ne vais pas juste passer en surface, mais je vais aller en profondeur. Je vais aller essayer de trouver les trésors qui sont dans le fond de ce passage-là pour comprendre les phrases, les mots qui sont là-dedans. Et donc, on a besoin de prendre un peu de temps. Parfois, dans la semaine, je peux dire, j'aimerais ça consacrer une heure puis étudier le premier chapitre de Galates. Puis, juste aller un petit peu plus en profondeur. Nous, on a le privilège, parce qu'on doit vous apporter la parole, de passer des fois des 10, 15 heures dans la semaine à étudier la parole. C'est les meilleurs moments que j'ai passés dans mon ministère, c'était là. À découvrir les richesses de la parole de Dieu, puis à travailler, à les articuler pour que vous puissiez être nourris par ça. Mais on ne peut pas tout consacrer 10, 15 heures par semaine, mais des fois, juste dire, j'aimerais mettre cette heure-là à part, une fois par mois, une fois par deux semaines, pour aller en profondeur. Alors, on a des outils qui sont disponibles pour nous pour aller un peu plus en profondeur. On a des bibles d'études maintenant. Il y en a une panoplie de ça. c'est le tuba, oui, c'est ça. C'est l'outil pour aller en plus en profondeur. Mais déjà, même si tu n'as pas de commentaire, moi, je n'ai pas de commentaire dans ma Bible, tu as déjà des renvois. J'allais dire cross-reference, mais des renvois à d'autres passages. Tu lis un passage, puis là, comme tantôt on lisait Matthieu 7, les versets 24 à 27, les deux maisons, mais tu peux être renvoyé à comment Luc rapporte cette histoire-là dans Luc 6, puis aller voir les détails que Luc a ajoutés ou qui ne sont pas mentionnés dans Matthieu. Et pour comprendre un peu plus chaque verset, on peut aller voir d'autres versets qui nous aident à comprendre. OK? Fait que ça, c'est les renvois, mais aussi les bibles d'études. On a eu, il y a quelques années, le privilège d'avoir les commentaires de John MacArthur traduits et puis se retrouver dans les Bibles. Il y a même une Bible qui a été écrite avec des commentaires pour les femmes particulièrement. Puis en anglais, là, ça ne finit plus, là, cette histoire-là. Là. C'est, je ne sais plus quel choisir. Mais dans un sens, qu'est-ce que ça nous permet? C'est que les notes en bas t'aident à mieux comprendre. Là, faites attention. Ce n'est pas la parole de Dieu là, ce qui est écrit en bas. Là. Okay? C'est le commentaire du gars là, qui a réfléchi là-dessus. Puis c'est des fois, il y a des positions différentes. Fait que c'est pour ça que des fois, tu ne veux pas juste consulter une Bible d'études, tu veux aller en voir une autre pour voir, « Hey, dis-tu la même chose, lui? Ça se tient-tu mieux, son argument? » Mais déjà, de commencer avec une, ça nous aide. Il y a des concordances bibliques aussi qui nous aident à prendre un mot puis à les retrouver ailleurs dans les Écritures. Si je prends le mot « rédemption », puis je veux savoir c'est où les versets qui parlent de rédemption. Une concordance, j'ouvre rédemption, ça me donne tous les passages. Moi, j'en ai une petite dans ma Bible, mais il y en a des plus grosses qui. Puis maintenant, avec les ordinateurs, là, c'est des logiciels gratuits. Moi, j'ai un logiciel gratuit sur mon ordinateur. On va sur Internet, on installe ça, tu tapes le mot, pouit, tchou, tous les versets apparaissent. Puis là, je peux limiter ça. Je veux dire, je veux voir dans les épîtres de Paul ce mot-là qui revient. Là, tous les passages. Puis on a ça même sur nos bébés à cette heure aussi. Fait que une traduction à l'autre, puis tout ça. Puis gratuitement. Okay? Il y en a qui sont gratuites. Fait que maintenant, on est équipé pour ça. Il y a des dictionnaires bibliques aussi qui nous aident à comprendre le terme. Justement, rédemption. Je peux avoir la liste des versets où ce mot-là se retrouve, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, rédemption? On va dans le dictionnaire biblique qui m'explique, pas juste un petit commentaire, pas juste une petite définition du Robert, mais plus détaillée, plus concernant l'application biblique de la rédemption. Donc, il y a ces outils-là qui sont disponibles. Il y a des commentaires, et là, les commentaires, là, c'est pour étudier l'Épître aux Galates, j'avais 6 commentaires cet été. Il y en a toutes sortes. Il y en a qui s'en vont dans le grec, puis qui des variantes textuelles, puis comment un tel l'interprète, puis comment l'autre, puis moi, je propose ça à la place. Puis là, on est creux, là. Hein? On s'en va fouiller dans les petites roches au fond, là. Mais c'est nécessaire, des fois, pour bien saisir, surtout pour ceux qui veulent étudier plus en profondeur. Mais il y en a d'autres qui sont plus pastorales ou dévotionnelles. Et puis, pour m'aider dans l'application, j'avais un petit livre de Tim Keller qui est sorti. Puis, c'est juste des réflexions sur l'Épître aux Galates. Et ça, ça peut justement nous aider, un accompagnateur à lire l'Épître aux Galates. Puis je lis ce petit livre-là. Donc, il y a plusieurs outils. Et puis même, je peux aller jusqu'à étudier les langues originales. Là, vous allez dire, hey, pas pour moi cette affaire-là. Là. Mais il y en a qui ont la capacité, qui pourraient déjà commencer à apprendre des mots grecs. Puis c'est pas compliqué, là. On a beaucoup de mots en français qui ressemblent au grec. Os, pas nécessairement. Mais si je prends le mot cardia, qu'est-ce que ça vous fait penser? Cœur. Hein? Cardiaque, nous en français, cardia, c'est le cœur. Il y a des mots comme ça qu'en français, ils ont leur origine du grec. Fait que on peut en trouver. Et puis, Yannick, une fois, avait fait une prédication, puis il y avait le mot, là, je me souviens plus du mot grec, là, mais c'était sclérose, ça voulait dire sclérosios, peut-être, je ne sais pas. mais ça voulait dire le cœur était sclérosé, ça veut dire le cœur est endurci et tout piteux. Et bon, il ne fonctionne pas, il est mort. Et donc, des fois comme ça. Puis, John Piper, dans un livre qui encourage les pasteurs à étudier les langues originales, il dit, il y avait un certain monsieur, que lui, c'était un banquier. C'était pas un théologien, c'était pas un pasteur, c'était un banquier. Il lisait sa Bible en hébreu puis en grec à tous les jours. Je suis même pas rendu là moi-même. Mais lui, si c'était un banquier, là, toi, petit pasteur, tu devrais peut-être étudier tes langues pour pouvoir exposer la parole de Dieu. Mais ça veut dire que c'est accessible. On peut apprendre ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps. Mais pour ceux qui ça l'intéresse, c'est pas inaccessible. J'en ai appris une base et puis je sais que ça peut être très utile parfois. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Et on va continuer, on va aller plus loin la semaine prochaine. Mais juste en terminant, un petit mot pour appliquer tout ça. On a besoin de la parole de Dieu pour s'instruire, pour grandir dans la sainteté, pour trouver notre bonheur en Dieu. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. On ne veut pas rester au petit lait, on veut aller dans les Écritures pour se nourrir. Et je vous encourage à faire les aspects pratiques. Trouvez un temps. Trouvez-vous un plan si ce n'est pas le cas. On a les signets, là. Il y en a qui nous ont dit un matin, hey, ils sont où les signets? On est rendu que c'est fini. Là. OK, on va vous trouver ça tout de suite, mais je veux que vous lisiez. Là. On va essayer d'organiser ça. Mais vous pouvez lire la parole de Dieu puis, pour se nourrir puis chercher à glorifier Dieu par nos vies. Oui. À quoi ça sert d'étudier le grec? Bien, des fois, là, c'est juste d'aller dans le verset, puis quand tu es capable de prendre le verset en grec puis de le traduire dans tes propres mots en français, tu vas découvrir découvrir la richesse du langage. Puis des fois, il y a des mots qui sont traduits en français qui ne sont pas tout à fait ce que ça voulait dire. Donc, lorsqu'on apprend l'original, on va chercher le sens plus précis. Oui. Oui. Un commentaire, c'est ça. Là, je pousse la... Je ne dis pas que vous devez tous aller étudier le grec. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste ceux qui ont un intérêt, c'est facile. On peut le faire. On peut le faire. Donc, c'est ça. Donc, je vais terminer ici. On va dire un mot de prière et puis on va aller louer le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, c'est par ta vérité que tu nous sanctifies. Seigneur, mon désir ce matin, c'est que, comme je l'ai prié tout à l'heure, c'est que tu puisses continuer de renouveler en nous cette passion pour toi, cette passion pour ta gloire, pour qu'on puisse trouver notre joie et notre satisfaction pleinement en toi. Aide-nous, Seigneur, à plonger dans ta parole régulièrement. Aide-moi, Seigneur, qui parfois peut passer quelques jours sans prendre le temps de plonger dans les Écritures. Aide-nous à avoir une passion pour les Écritures et qu'on puisse les appliquer dans nos vies pour qu'on puisse être de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur, on a besoin de toi pour être une église qui marche dans la sainteté et qui est un flambeau dans cette ville, un flambeau qui brille pour toi et pour ton évangile. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.